Annie, troisième partie, chapitre 9. Comme Sixte mettait le pied sur le trottoir dans la rue, il sentit qu'on lui prenait le bras. Il se retourna. C'était de la vigne. « Comment t'es-tu laissé entraîner ?» demanda celui-ci. « Ah, comment ? Tu n'as pas vu que c'était un coup monté ?»« Trop tard. Nous rentrons. » Sixte ne répondit pas. « Nous prenons une voiture ?»« Non, j'ai besoin d'être seul, de marcher. » « Tu descendras en arrivant à Bayonne. Ne me laisseras-tu pas tranquille ?»« Ah !» Sixte, malgré son désarroi, eut conscience de ses paroles. « Sois assuré que j'ai été sensible au mouvement qui t'a fait prendre place auprès de moi pendant que le baron parlait. »«
C'était naturel. »«
Tu as cru à une altercation. Elle était impossible, puisqu'il était dans son droit, et que j'étais, moi, dans mon tort. » « Merci. » Et Sixte lui tendit la main. Cependant, de la vigne ne bougeait pas. « Adieu, » dit Sixte en s'éloignant. Mais il n'avait pas fait trois pas qu'il s'arrêta. « De la vigne !» Il revint vers son camarade. « Tiens, » dit-il en lui tendant des liasses de billets de banque. « Qu'est-ce que c'est que ça ? 40 000 francs que je te prie de me garder. Comme tu montes en voiture, ils sont mieux dans tes poches que dans les miennes. Tu me les donneras demain. » Cette fois, il quitta son camarade au milieu de la rue, et de la vigne fut abasourdi de voir qu'au lieu de se diriger vers Bayonne, il prenait une direction précisément opposée, comme s'il voulait gagner la côte des Basques. C'est qu'en effet, telle était l'intention de Sixte. Son parti était pris, se jeter à la mer du haut de la falaise noire et ruisselante, qui, à pic, s'élève au-dessus de la grève. Et, par les rues désertes de la ville, il descendit vers le port vieux, courant plutôt que marchant, le visage fouetté par le vent froid qui soufflait du large, avec un bruit sinistre que dominait le mugissement rauque de la marée montante, déjà haute. C'est quand Darjusanx avait dit « Si notre argent n'est pas sur cette table, « notre parole y est !» que sa résolution s'était formée dans son esprit. Son honneur engagé, il n'avait que sa vie à donner pour payer sa dette. Il la donnait. Il avait dépassé les bains de Port-Vieux et constaté que l'heure de la pleine mer ne devrait pas être éloignée. Quand il se laisserait tomber de la falaise, la vague le recevrait et l'emporterait. C'était sans aucune faiblesse qu'il envisageait sa mort. Ce serait fini, fini pour lui, fini pour les siens, qu'il n'entraînerait pas dans le désastre. Mais cette pensée des siens, celle de sa femme, l'amollit. Ce n'était pas seulement sa vie qu'il sacrifiait, c'était aussi le bonheur de celle qu'il aimait. Quel désespoir, quel écroulement, quel vide pour elle! Il n'était marié que depuis 2 mois. Elle était si heureuse du présent. Elle faisait de si beaux projets. Elle ne l'aurait même pas revu. Il ne l'aurait pas embrassée une dernière fois d'un baiser qu'elle retrouverait. Il s'arrêta et, après un moment d'hésitation, revint sur ses pas pour prendre la route de Bayonne. Il avait 24 heures devant lui, ou tout au moins, il avait jusqu'au matin, avant qu'on apprît ce qui s'était passé. Que de fois il l'avait parcouru à cheval avec sa femme, cette route qu'il suivait maintenant à pied, seul, dans la nuit. Cette évocation eut cela de bon qu'elle l'arracha aux angoisses de l'heure présente et du lendemain, pour le maintenir dans ce passé si plein de souvenirs qui s'enchaînaient, doux ou passionnés, tendres ou joyeux. Comme il approchait de Bayonne, il entendit dans le silence 2 heures sonner au clocher de la cathédrale. Au lieu d'entrer en ville, il longea le rempart et descendit aux allées marines. Cette fois, sa maison était sombre, Annie ne l'avait pas attendu. Il ouvrit les portes sans faire de bruit et alluma une bougie qui était préparée à la veilleuse de l'escalier. Arrivé à la porte de leur chambre, il écouta et n'entendit rien. Assurément, Annie s'était endormie. Alors, au lieu d'entrer dans la chambre, il tourna avec précaution le bouton de la porte de son cabinet de travail, qu'il referma sans bruit. Une glace sans teint s'ouvrait au-dessus de la cheminée dans le mur qui séparait la chambre du cabinet. Masqué par un store à l'italienne, à ce moment, à demi baissé. Dans la chambre, deux lampes et une statuette garnissaient la tablette de cette cheminée. Dans le cabinet, c'était un vase avec une fougère et deux flambeaux. D'une main, écartant les frondes de la fougère, et de l'autre, approchant son bougeoir de la glace, Sixte regarda dans la chambre. Tout d'abord, ses yeux se portèrent dans l'obscurité. Mais, s'étant fait un abat-jour avec sa main, de façon à projeter la lumière en avant, il aperçut dans le lit lui faisant face la tête de sa femme se détachant sur la blancheur du linge. Puisqu'elle ne bougeait pas, puisqu'elle ne l'appelait pas, c'est qu'elle dormait. Cela lui fut un soulagement. Il avait du temps devant lui. Dans ces deux heures de chemin, il n'avait pas uniquement pensé à Annie. Il avait encore arrêté son plan, dont ce sommeil facilitait l'exécution. Ce n'était pas seulement l'embrasser qu'il voulait. C'était aussi qu'elle eût sa dernière pensée. Il s'assit à son bureau, placé devant la cheminée, et se mit à écrire. Tes pressentiments ne te trompaient pas. Devenu notre ennemi implacable, le tien, le mien, il a voulu se venger de toi, de moi. Aveuglé, entraîné, j'ai joué, et j'ai perdu 276 000 francs, en plus de ce que j'avais déjà perdu. En revenant, j'ai réfléchi. J'ai vu la situation comme on voit dans la solitude et dans la nuit, d'une manière lucide, sans mensonge. Et de cette froide vision est résultée la décision qui fait l'objet de cette lettre. Un adieu. Un adieu, ma belle et chère Annie. Oh, si chère, si aimée, plus que dans le bonheur encore, et que je vais quitter pour mourir. Mais ce n'est pas mourir qui m'effraie, c'est briser notre vie amoureuse, c'est ne plus voir Annie. C'est aussi lui laisser le doute d'avoir été aimée comme elle le pensait. Comprendra-t-elle que je veux disparaître parce que je l'aime plus que moi-même et que je préfère, cherchant le meilleur pour elle, la savoir veuve, tragique, plutôt que femme amoindrie par un mari coupable. Je ne puis pas payer ma dette et je ne veux plus rien demander à ton père que je ruinerai. Il n'y a donc qu'à m'arracher de toi, avec la pensée que je laisse presque intacte une fortune doublement tienne, qui te gardera indépendante et fière. Comprends-tu que mon amour est tel que tu pouvais le désirer et que je ne t'abandonne pas? Dis-toi, au contraire, que c'est serré contre toi, mon âme mêlée à la tienne, que je me suis arrêté à la résolution de ne plus te voir et de te laisser, dans ta fleur de jeunesse et de beauté, vivre sans moi. Je n'ai songé qu'à ton repos et j'ai dû oublier combien ont été courtes nos heures d'amour. J'ai dû oublier aussi qu'une femme adorée m'échappe dans la première émotion de notre existence fondue et, qu'ivre de toi, je me détourne de toi, vibrant, soudé de cœur et de chair, rêvant l'éternité de mon amour, alors qu'il n'a plus de lendemain.